Vous écoutez
RMC.
RMC.
Première, je voudrais dire pardon à les supporters.
Je demande pardon à nos supporters pour ces résultats.
Je dis pardon à tous les supporters.
Je dois juste dire à nos supporters excuse.
Jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Et oui. Et non. Et non. Il est de retour. Le jeudi noir est de retour, messieurs, dames, dans l'after. Malheureusement, c'est pour ce soir. Nous étions pleins d'espoir jeudi dernier. On espérait l'exploit de Nantes, la qualif de Rennes. Seul de Monaco, ils avaient gagné à l'extérieur. A priori. Eh ben non, 0 sur 3. Un beau jeudi noir qui rentre dans l'histoire de l'after. Hein, parce que un jeudi noir, quand tu avais autant d'espoir. On en a pas eu souvent. Daniel Riolo est là. Bonsoir Daniel.
Salut les amis. Je crois qu'hier soir, j'ai eu ce moment d'enthousiasme démesuré, peut-être un des moments les plus stupides de 16 ans d'after. À la fin, toute fin de l'émission, j'ai lâché allez, demain, on passe tout le monde. Une belle inspiration, je trouve. Vraiment.
Il n'est jamais avec nous le jeudi soir. Peut-être, est-ce que. Bah, peut-être c'est sa faute.
Moi, je pense que si on lui remet tout sur le dos, au moins on se décharge.
Walid Acherchour est là, salut Walid.
Salut Gilbert, salut à tous. Premier jeudi noir, j'ai vécu ça à la maison pendant 10 ans.
Et oui, ça fait mal. Hein.
Ah ouais, non,
c'est... Le pire, c'est qu'on a l'air surpris. Ouais. C'est que Gilbert dit il est de retour le jeudi noir, mais puis il est de retour, parce que c'est juste la saison des jeudis noirs.
Exactement.
Mais ils ont toujours été.
Il est de retour.
Aussi flagrant comme ça, celui-là, il fait mal. Sincèrement,
celui-là, c'est un des plus beaux.
Surtout qu'en plus, en termes d'analyse, cette année, on dit que la Ligue 1. C'est vraiment bien. Celui-là, voilà. Moi, il me fait mal. Voilà. Vraiment, alors, il me fait mal.
Celui-là. Le carton rouge de Palois. Le but contre son camp de Bélocian. Nubel.
Nubel, c'est un fourrage.
Nubel, Jean-Louis Tour, il est meilleur que lui. Oh. Là, il y a quand même, on est sur un festival.
Deux séances de tir au but où Rennes, donc, revient. Après deux tirs au but manqués, moi
c'est rarissime de revenir.
Ah, mais j'ai très rarement vu ça, moi.
Mm. Eux, ils sont revenus. Dans la foulée, ils trouvent le moyen d'aller s'embrouiller, histoire de perdre un petit peu la concentration. Ils s'embrouillent. Et le mec vient, il tire et il rate le péno.
Deux séances de tirs au but ce soir.
Oui, non, Monaco, je parlais deux de retard. Et non, il reste
le foot français en séance de tirs au but, on est quand même au top. Ouais. Hein, vous avez remarqué, on est tout là-haut quand même.
Avec deux gardiens qui n'en arrêtent pas.
Hein. Après, Hugo Lloris à la Coupe du Monde, on savait qu'il était mauvais. Mandanda, on savait également que les pénaux. Mandanda, je pense. Ouais, Walid, tu lui mets une série de 5 à Rondon.
Ah ouais, non,
mais. Tu cadres, tu mets tout dedans.
Ah ouais, non, c'est.
Même c'est affolant. Même pas une fois, il effleure un ballon.
On avait Jeannot Rességué, on le savait une minute avant, contre-pied.
Oui.
Ouais, contre-pied.
Bon, essayons quand même de nous organiser. Déjà, on va aller jusqu'à 1h du matin, parce qu'il faut quand même qu'on prenne le temps d'analyser tout ce qui s'est passé ce soir. En plus, il y a de l'actu liée au match au MPSG de dimanche. Il y a de l'actu à la Fédé avec une première démission au COMEX aujourd'hui. Mais on veut surtout parler de l'Europa League et des trois clubs français ce soir dans le détail. On vous attend au 32-16, donc exceptionnellement jusqu'à 1h ce soir. On va démarrer par Rennes. C'est le dernier match qui s'est terminé. On parlera longuement également de Nantes et de Monaco tout à l'heure avec nos drôles de dames. Bien sûr, Johan Crochet tout à l'heure sera là pour la Juve, notamment Paulo Breitner pour les Leverkusen. Et puis on a un invité ce soir, un jeune supporter rennais qui avait fait sensation dans l'after quand il était passé il y a quelques temps. Et on avait promis à Léon qu'on l'accueillerait dans notre studio. Léon, bonsoir.
Salut.
Le problème, c'est que tu lui avais pas promis que ce serait pour un jeudi noir et que c'est son équipe qui vient de perdre au péno.
Voilà, le pauvre Léon, regardez le match.
À son âge, il est ému, franchement.
Il va s'en souvenir.
Et moi, je me souviens à son âge, quand mon équipe perdait, je chialais. Et le pauvre, il doit pas être super bien.
Surtout, ça va, là, tu tiens bon, là.
Oui.
Bon, surtout à son âge, il aurait pu jouer pour le Stade Rennais ce soir. Avec la moyenne de match qu'il y avait sur le terrain.
Rappelle-nous quel âge tu as, Léon.
11 ans.
Ouais, le même âge que Désiré Doué.
Quelle analyse tu fais du match, là?
C'est un jeudi noir. Voilà. Un jeudi noir, Rennes a bien commencé, mais comme d'habitude et comme cette saison, la finition, c'est pas ça.
Ouais.
C'est partout, il n'y a plus Terrier, Bourigeaud suspendu en dégageant un ballon au match chalet complètement débile. Traoré blessé. Là, t'as les trois forts de Rennes qui sont partis. Et forcément, derrière, quand tu fais jouer Bélocian en défense, tu... T'as Théâtre en défense, tu fais jouer Bélocian qui, en plus, à 4 minutes de la fin, fait une erreur. Ça sert à quoi de faire ça, sachant que t'as Théâtre, t'as Rodon. Ça marchait en début de saison et il a changé. t'avais où en plus en choix aussi et tu décides de mettre Omari et Bélocian qui sont pas foufou et qui sont encore jeunes et en formation.
C'est une prise de risque un peu étonnante. Je me demande si Genesio, j'ai du mal à comprendre ce qu'il fait avec son équipe récemment. Est-ce que il a voulu sanctionner à chaque fois qu'un défenseur faisait un mauvais match ou une erreur? Ça a commencé avec Omari qui était pas du tout dedans dès le 28 décembre quand ça a repris avec ses deux boulettes. Théâtre avait
il bien prend un rouge pris, clairement.
Et lui aussi pas bien. Rondon a disparu. Il paraît qu'il a eu du mal à revenir de la Coupe du Monde. C'est pas comme si le Pays de Galles était allé jusqu'en finale quand même. Hein. Je sais pas ce qu'il a fait pour revenir. Il a fait une escale où en revenant du Qatar. Je sais pas. Mais bon, ce qu'on dit à Rennes, c'est qu'il a eu du mal à revenir. Donc finalement, charnière centrale, elle a explosé. Terminé. Les remplaçants de la charnière centrale ont également explosé. Donc tu te retrouves, comme disait Léon, avec des gamins. Tu te retrouves avec les. Franchement, les charnières là, c'est. Évidemment, le pauvre, il pleure, le Bélocian. Il fait un geste qu'on voit le dimanche matin sur.
C'est un 2005.
Voilà, c'est un geste absurde. On va pas lui en vouloir. Il doit, je sais pas, s'il doit être sur le terrain, il est trop jeune. Bref, une équipe complètement chamboulée, qui a perdu de sa qualité technique, dont on comprend plus le fil conducteur tactique, parce que c'est un peu, je pousse le ballon, je cours. Bon, ce soir, c'était beaucoup d'Oku. T'as l'impression qu'il y avait que de lui que ça pouvait venir. Et effectivement, c'est venu de lui, mais moi, j'aime pas trop son côté brouillon. Je suis pas fan de ce type de joueur-là.
Après, ce soir, il est récompensé par ses mouvements.
Oui,
par...
clairement, c'est pas celui que tu vas critiquer, oui, parce que c'est lui qui a porté.
Il y a eu des espaces. Il fait tout.
Ouais. La lumière, c'est lui qui l'a ce soir, mais néanmoins, à travers lui, ça traduit la pauvreté du jeu de l'ensemble collectif. C'est-à-dire que tu lui donnes le ballon, il accélère.
C'est vrai qu'il est un peu surresponsabilisé.
Bah, voilà, ça passe pas. Je réussis ma passe, je réussis pas ma passe, mais autour de lui, il se passe rien. Donc l'équipe, elle a été complètement cassée. On l'avait vu en championnat. Mais alors là, que ça explose de cette façon en Europa League, comme ce soir, où finalement, quand même, je me trompe pas, mais à un moment dans le match, enfin, il y a quoi? Il y a 3-0,
hein? Il y a 2-0.
Ouais, mais enfin, tu vois, t'as l'impression que le match ils l'ont en main.
Oui. T'as des situations de 3-0, notamment avant le but. T'étais beaucoup plus proche de mettre le troisième que de prendre la réduction du score.
Exactement.
Mais après, encore une fois, déjà sur le match, moi j'ai pas trouvé que Rennes a fait un énorme match de football.
Non, ça c'est sûr.
Ils ont essayé avec les moyens qu'ils avaient aujourd'hui, mais là où t'as raison d'insister, Daniel, c'est que on a vraiment l'impression que Genesio a perdu le fil conducteur depuis un moment. Faut pas oublier, parce que Léon parlait du match aller, mais que aujourd'hui tu payes ta qualification aussi sur la deuxième mi-temps contre le Fenerbahçe où tu mènes 3-0, où donc t'es premier de ta poule et t'aurais pu être en huitième de finale. Et donc ça,
en Coupe d'Europe, ouais. En regardeur, les matchs et les scénars, ils ont fait n'importe
exactement.
Quoi.
Donc
dans la maîtrise et la gestion des matchs, ils ont fait n'importe quoi.
Ils se sont mis dedans tout seuls.
Comme ce soir.
Tout, exactement.
Comme ce soir, 2-0, mais on imagine tous les 3-0. Ils prennent un but casquette. Bon.
C'est le fil conducteur de la saison européenne.
Ils gèrent tout à l'envers.
De Rennes. On se rappelle contre le Dynamo Kiev, c'est un but de Désiré Doué à la 87e. Contre Fener à l'aller, tu gagnes 2-0, ça fait 2-2. Au retour, tu gagnes 3-0, ça fait 3-3. Sur le match aller, franchement, la première mi-temps du Shakhtar, elle est pas folle, mais tu donnes un penalty et un but où t'es naïf défensivement.
On parle de ce Shakhtar-là. Exactement. Heureusement qu'ils ont pas joué le Shakhtar d'il y a 2 ans.
Et c'est ça.
Ils prenaient valise aller-retour.
Mais c'est ça, je voulais insister là-dessus. C'est que, pour moi, c'était un super tirage pour Rennes. On parle quand même. C'est vrai que pour moi, dans les trois, ce soir, alors dans la médiocrité des résultats, pour moi, Rennes est à.
Ah non, la faute grave, c'est. Ouais, Monaco, c'est pas terrible, mais la faute grave, c'est Rennes.
Quoi. Non, mais Monaco, ils jouent quand même le Bayer Leverkusen, de Xabi Alonso, etc.
Enfin, Monaco, ils ont gagné à l'aller. Oui, on en parlera tout à l'heure.
Non, on en parlera après. Non, mais.
Il y a aussi
Rennes joue quand même le Shakhtar.
Une équipe qui ne joue plus,
qui est en guerre.
Qui est un pays en guerre.
Ils n'ont pas joué depuis 2 mois et demi, Gilbert. On l'a bien vu.
Plus debout à la fin.
Mais sur la prolongation, physiquement, c'était criant. Et derrière, surtout, tu joues une équipe qui a perdu Mudryk, qui est parti pour 100 millions à Chelsea, qui était le meilleur joueur. Ils n'ont plus aucun Brésilien. On sait très bien qu'il y a une confrérie brésilienne au Shakhtar sur les dernières années. Et c'est ce qui a donné la réussite du Shakhtar. On se rappelle des Willian, des Fernandinho, etc. Luis Adriano. Et là, t'en as plus un. Il joue qu'avec des Ukrainiens. Et sincèrement, sur la double confrontation, j'ai pas trouvé cette équipe folle. Et ils les ont eu à l'expérience, avec un peu plus de maturité dans les moments chauds. Et ce soir, tu te prends à cette élimination à la porte. Et je vais terminer là-dessus. Mais c'est pas non plus une surprise. Quand tu enchaînes depuis la Coupe du Monde 7 défaites, 7 défaites depuis le retour de la Coupe du Monde. C'est pas anodin, tu peux pas arriver.
Mais ça veut dire que t'as plus d'équipe, en fait. Mais ça, on l'a constaté, on le voit qu'ils ont plus d'équipe.
Alors, les gars, Léon, t'es d'accord avec ce qu'ils disent, les deux, là?
Complètement.
T'en veux à Genesio?
Bah, il a pas géré. Il avait un groupe. L'année dernière, il avait commencé à former un groupe. Et il a, c'est comme Rennes, c'est comme les clubs français, c'est le mercato d'été, en fait, c'est à chaque fois des nouvelles équipes. C'est tout le temps, ça revend, ça rachète. C'est le football français et ça n'a jamais les mêmes équipes. Paris, c'est plus le même Paris. T'as Carlos Soler qui est arrivé. T'as beaucoup de joueurs qui sont partis dans beaucoup d'autres.
Oui, mais là, la première partie de saison de Rennes, elle est bonne jusqu'à la Coupe du Monde.
Ah oui, mais c'est
après la Coupe du Monde et c'est avec les changements de l'hiver que ça a tout bouleversé. C'est ce changement-là.
Bah, c'est le mercato, il a raison, Léon.
Oui, mais c'est celui d'hiver, en fait, tu voulais dire. C'est celui-là qu'on n'arrive pas à comprendre de mercato. Non, mais
même l'été,
qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Parce que tu fais quand même des changements, on l'aborde pour Guiri, tu perds Aguerd, tu remplaces très tardivement. Ce qui
l'aborde pour Guiri, tout le monde a dit que c'était génial.
Non, mais oui, d'accord, mais pour l'instant, il y a eu quand même du chamboulement.
Cet été me gêne pas trop, si ce n'est de miser 25 millions sur Kalimuendo, qui, à mon avis, est pas le crack qu'on croit qu'il est.
C'est compliqué pour lui en ce moment.
Mais, néanmoins, après un mois d'août un peu délicat, Rennes fait jusqu'à la Coupe du Monde quelque chose de très bien.
Il y a des bons moments.
Ils sont dans dans le top 5.
Oui, oui.
Ils mettent du temps à trouver l'équipe, mais l'équipe, elle est dessinée, tu vois.
Oui, d'accord.
Après, que Terrier se blesse, évidemment que ça a foutu en l'air le groupe.
Mais c'est pas normal.
C'est clair.
C'est pas normal,
mais
Daniel.
Moi, je l'ai dit, je pensais que ça allait vraiment être très préjudiciable, mais entre très préjudiciable, tout ce que tu veux, et catastrophique, cataclysmique à ce point. Je pouvais quand même pas l'imaginer, tu vois. C'est vraiment, on disait, c'est comme si Mbappé s'en va du PSG. C'est comme si là c'est pire parce que là c'est la dégringolade complète.
Bien évidemment.
Et arrive l'Europa League où tu dois quand même donner un peu d'espoir à ton public là parce que t'es en train de créer quelque chose de sympa. Le stade était plein ce soir. Rennes commence à se passer un truc. L'année dernière ça a commencé à être un peu bien et puis dans un match un peu. Finalement, qui s'est mal terminé là contre Leicester. Là, le Shakhtar, comme tu l'as dit, c'est même plus une équipe. Ils ont perdu leurs joueurs. C'est un pays de en guerre, de joueurs qui ont d'autres préoccupations que le foot, et tu perds de cette façon.
Ce qui est surtout dérangeant,
c'est que le
problème sur les six premiers mois, c'est que bien évidemment, il y a eu des bons moments, il y a eu des bons matchs. Mais même avec Terrier, même avec Amari Traoré, même avec Bourigeaud, je reprends le match aller contre Fenerbahçe. C'est Amari Traoré, je crois, qui prend rouge. Terrier avait fait déjà un super match, mais ça finit à deux partout. Donc cette stabilité et surtout cette fébrilité défensive et même ce jeu, parce que l'année dernière c'était quand même la plus belle équipe de Ligue 1 à Rennes, ce 4-4-2 avec Magère, avec Bourigeaud, avec Terrier,
la
avec Laborde.
Aussi, c'est au Qatar.
Voilà,
on peut pas dire qu'il est beaucoup joué là-bas. Il est pas revenu lui.
Non mais entre les joueurs, les individualités qui étaient très bons l'année dernière, qui sont moins bons, donc Magère notamment, Flavien Tech qui était important aussi, Santa Maria qui revient de blessure, Cheka qui était, ouais, il était pas là l'année dernière, mais qui était important un peu en début de saison.
Début de saison, oui, moi, voilà. Je trouve qu'il était important.
Terrier, Laborde qui est parti. Il y a Aguerd aussi qui était très important. T'as l'impression qu'il y a eu un trop gros changement dans cette équipe et que Genesio n'a plus les clés. Entre la jeunesse, parce qu'il y a des bons jeunes à Rennes, mais le problème c'est que tu les propulses un peu n'importe comment. Ce soir tu termines avec une équipe de Youth League.
Tu fais trop avec les jeunes.
Voilà,
surtout tu les crames, parce que le pauvre Bélossian
avant qu'il s'en remette de
ça doit pas être évident. Donc voilà, vraiment on a plus l'impression que ce soit dans le jeu, dans les résultats, dans la compétitivité, que Genesio, en fait, je répète, mais 7 défaites pour une équipe comme Rennes.
Peut-être lubie de croire qu'il va relancer Toko Ekambi.
Après Toko Ekambi, moi, je vais pas remettre une.
On va faire une petite évaluation, les gars.
C'est pas un sujet pour toi.
En plus, il marque ce soir, donc.
T'as pas le droit. Léon, t'as plein de fans sur Direct Studio. Fab nous dit faites vite un contrat à Léon. Il est encore au collège quand même, on va se calmer.
Ouais,
on est là uniquement pour l'accompagner, Léon.
Voilà. Il y en a qui nous disent Léon à 11 ans, il est meilleur que Walid.
Oui, c'est pas faux.
Il y en a un qui me dit on dirait Walid sous hélium.
Oui, c'est... Non, il crie pas assez fort encore.
Bon, petite évaluation là. Il y a quand même un joueur que t'as aimé, Léon, ce soir, ou il y en a pas à sauver.
Doku qui percutait.
Ouais.
C'est tout, mais après. Non, il n'y en a aucun qui vraiment m'a marqué ce soir.
Non, t'as raison. C'est vrai que hormis Doku, c'était très très brouillon. Et même Doku, hein, la première partie de rencontre, elle est pas non plus géniale. Il bute souvent sur les défenseurs et c'est avec la prolongation, ce match qui se débride un petit peu, les espaces. Et derrière, il a réussi à trouver la solution. Mais globalement, moi, faut pas oublier que dans ce match-là, il y a une ouverture du score des Ukrainiens qui est refusée. Il y a une énorme occasion, notamment à 1-0 sur un centre fuyant. Ils ont pas tout maîtrisé, les Rennais, hein, loin de là. Ah, donc,
je me demande à quel moment ils ont maîtrisé quoi que ce soit. Surtout quand t'es
individuellement,
devant, quand t'es devant, que t'as qu'à attendre la fin du match, que tu recules, que tu ne mets pas le pied sur le ballon, alors que les mecs en face ne font plus rien. Ça n'a aucun sens. En fait, la fin de match des Rennais n'a aucun sens. Et Léon, il y a un gardien dans ton club. Vous avez un gardien, forcément. Vous avez un gardien de but.
Mandanda.
Il est bon sur péno ou pas?
Il en avait arrêté. Je ne sais plus s'il en avait arrêté l'année dernière en Coupe de France contre Brest.
Je crois qu'il en a arrêté un en début de saison contre Monaco, non?
Non, mais moi je parlais dans ton club à toi.
Dans ton club.
Si t'as un gardien.
Oui, il est gardien, Léon.
Ah, toi t'es gardien?
Ah, dans son club à lui.
Ah, toi t'es gardien? Bah alors, vas-y, dans les buts à la place de Mandanda, quand il y a des pénaux, tu vas attraper mieux que lui. Hein. Et il en attrape pas un.
Et il n'est pas très fort pour ça. Les Français ne sont. Français, c'est un peu compliqué.
Les Français, même les Allemands, maintenant qu'on récupère, ils sont pas bons non plus chez nous.
Juste quand même, sur l'évaluation, revenons à quelques cas particuliers quand même. Parce que, rappelez-vous, quand Santa Maria n'était pas là, on disait, ah ouais, quand même, Santa Maria, il manque. Ouais. Bon, voilà, il est revenu. T'as pas l'impression qu'il est revenu, en fait. Kalimuendo, c'est quand même un énorme transfert à Rennes.
C'est le plus gros transfert de l'histoire du club.
Là, ce soir, Kalimuendo.
Quand tu vois ce qu'il faisait à Lens, notamment.
Il y a quand même un sacré paquet de déceptions. Hein.
Oui, mais encore une fois, il faut en parler parce qu'on a été dithyrambique sur Genesio l'année dernière. Quand il fait beau, il fait beau. Quand il pleut, il pleut. En ce moment, il y a une grande averse à Rennes et il y a quand même un chef d'orchestre. Hein. Il y a quand même quelqu'un qui doit. Il y avait des objectifs en début de saison. Il y avait beaucoup de personnes et d'observateurs qui mettaient Rennes sur le podium. Pour l'instant, parce que si tu veux parler des cas individuels.
Le tournant de la saison, quand même, c'est la blessure de Terrier.
Oui, enfin, d'accord, mais. Gilbert, à un moment donné, j'adore Terrier. Il était resplendissant avec Rennes. Il avait un rôle très, très important. Dans la façon de faire marquer, de marquer. Mais ça reste Terrier. T'as quand même des solutions où tu dois prévoir, surtout sur une période. Si ça dure. Terrier, il s'est blessé après Reims. Ça dure quand même 2 mois. Tu dois normalement. J'avais pas l'impression
Si tu observes ton groupe, si tu es convaincu que la petite bande, parce que c'était une bande, ils s'entendaient très bien, ils sortaient tous ensemble, donc Terrier, Bourigeaud, Laborde, je sais plus qui y avait dans cette bande là encore, il y avait au milieu de terrain, bon bref, peu importe, parlons juste de ces trois. Ouais. Si tu observes que c'est bien, les mecs se kiffent et tout ça, moi je veux bien, mais dire Laborde va s'en aller parce qu'il y a eu quelque chose dans son comportement qui nous a pas plu, parce que c'est ça en fait qui a provoqué son départ l'été dernier. Il s'est passé quelque chose. Hein. Bon, écoute, si vraiment tu n'es pas capable de comprendre que ça va affecter Bourigeaud, Terrier, qui perdent un pote, bah passe sur la connerie qu'il a faite et garde-le parce que t'avais un groupe qui fonctionnait très bien, mentalité, les mecs étaient amis sur le terrain mais également en dehors. Là, pardon, il se passe plus rien. T'as l'impression qu'il y a plus d'osmose. Il y a
la fin de contrat d'Amari Traoré, Bourigeaud qui devait partir, qui finalement ne part pas, Magère qui devait partir, mais qui finalement ne part pas.
Oui, on en parlait plus.
Ouais,
tout ça.
Ouais, mais dans le jeu, j'ai jamais retrouvé, à part la première mi-temps contre le Fener là-bas, où le 3-0 est splendide.
Tu vas être coupé par. Ton joueur préféré, Karl Toko Ekambi. Oui. Il veut intervenir. Oui. Et t'as écouté. Oui. On l'écoute.
Déçu parce que je pense qu'on a fait un bon match. On a des opportunités en première mi-temps pour marquer, on l'a pas fait, mais en seconde mi-temps on l'a fait. On a même mené 2-0. Après malheureusement on a ce petit manque de chance qui nous envoie au penalty et après on n'a pas su faire le boulot. On va pas trop parler. Je pense qu'on doit digérer.
Bon, il dit on a fait un bon match.
Je pense pas qu'ils aient fait un bon match. Ouais, il le dit.
Moi non plus. Et ça va être vraiment à digérer parce que élimination contre l'OM en Coupe de France, ils sont 5e au classement. Aujourd'hui, d'Europa League.
Rennes, ils peuvent finir 6 ou 7 en matin.
Léon, si tu avais un message à faire passer à la famille Pinot, tu leur dirais quoi?
Bah, qui bouge un peu le Stade Rennais, parce que là, ça va plus. C'était bien ces dernières années, parce qu'ils faisaient que de se qualifier en Europe. Mmh. Mais il y a eu plein de ventes inutiles de joueurs qui sont restés un an, deux ans à Gerd. C'est pour moi la pire vente de cet été.
Tu l'aurais gardé, toi?
Ah, oh, bah, complètement.
Après, c'est une bonne affaire.
Après, 40 millions, c'est quand même bien de le garder.
Hein, ouais, mais quand tu rachètes du Rodon, du Théâtre, qui derrière ont du mal à s'adapter, qui sont une nouvelle charnière centrale. Théâtre, il avait mal débuté, il marquait contre son camp. À la première journée, c'est pas hyper bien pour s'adapter. À Gerd, c'est 40 millions peut-être, mais fallait le garder.
Pas en mesure de le garder, parce que c'était plus ou moins entendu qu'il partirait avec une belle offre. C'est juste qu'il fallait le remplacer, et effectivement, t'as perdu un gros défenseur.
Ah, là, même sur ta raison, cité, il n'a pas été remplacé.
Ce que t'as cité, après une adaptation un peu compliquée, à un moment, je suis désolé, les gens tapaient dessus. Théâtre, Rondon, tout le monde sauf peut-être sa gueule. Je suis désolé. À un moment, cette charnière centrale, ça a fonctionné. La Coupe du Monde a pété l'élan. L'autre, il est jamais revenu, le Gallois. Et là, aujourd'hui, je suis désolé, on parle plus du tout de ces deux-là. On parle de deux gamins qui font la charnière centrale et d'une charnière centrale qui change quasiment toutes les semaines. C'est pas possible que ça marche. C'est pas possible que ça marche.
Ils étaient sur parce que au-delà de vendre à Guerre, c'est surtout comment tu l'as remplacé et dans quel timing, parce que je trouve qu'ils ont quand même été très très lents dans la quête de ce défenseur. Ils devaient prendre, ils étaient sur Kim, qui aujourd'hui au Napoli, qui est l'un des meilleurs défenseurs d'Europe actuellement.
Il y avait du monde avec lui.
Il fallait boucler le truc très vite. Et ils ont merdé dans le bouclage.
Kim de Fener, s'ils avaient réussi à le faire, aujourd'hui, il va être champion d'Italie avec le Napoli. Il a été encore incroyable face à Colomboigny. Donc je pense qu'ils ont raté le coche là-dessus.
Allez, on va conclure sur Rennes. Léon, tu vas au stade de temps en temps?
Très rarement, mais ça arrive souvent, mais c'est très rare.
Le Stade Rennais.
Ça arrive souvent, mais c'est très rare, c'est bizarre.
Le Stade Rennais écoute l'after, donc j'espère que tu vas être invité en VIP, vu toi.
Ah oui, là, il faut vraiment que tu t'invites.
Vu ta qualité d'analyse, c'est quand même la moindre des choses.
Ouais, donc, si tu peux parler avec Florent Maurice deux, trois fois aussi.
Voilà, histoire de lui dire un peu ce qu'il faut.
Je vais faire le numéro, pour lui dire qu'il faut recruter.
Ouais.
Bon, on va s'arranger.
Et donc, c'est quoi ton club à toi? Le club où tu joues?
Dinan-Léon. Le club.
Très bien.
Ah, Dinan, c'est une jolie ville, Dinan. C'est là que vous habitez?
Non.
Ah, t'habites pas à Dinan, d'accord.
Bon. Bah écoute, merci d'être passé, Léon. C'était très sympa. Et puis, on reste en contact.
Ça, c'est sûr, on aurait aimé que ce soit une plus belle soirée pour toi.
Ouais. Mais elle restera marquante quand même.
Mais les jeudis, comme ça, tu auras participé à un jeudi noir. C'est une tradition dans l'after, le jeudi noir.
Est-ce qu'on n'a pas plus d'émotion quand nos équipes perdent?
Ouais, en l'occurrence, je pense qu'il aurait préféré gagner.
Ouais.
Merci, Léon. Moi, je précise que c'est les vacances scolaires à Rennes. Hein, donc, c'est pour ça qu'il est là. Parce qu'on
pourrait dire
que fait un enfant à minuit 16 à l'antenne? C'est les vacances scolaires.
Et il n'y a papa derrière, quand même.
Il est là, effectivement. Ouais. Et nous, on va jusqu'à 1h du matin, hein, exceptionnellement.
J'ai pas compris la phrase de Walid. On a plus d'émotion quand ça perd. C'est juste, ça m'a fait penser à une histoire de mille-feuillets de café. Et finalement, il est peut-être en train de dire qu'il a préféré ça.
Non, pas du tout, mais on se souvient beaucoup plus. On se souvient beaucoup plus dans les.
Ah, d'accord.
Ça te marque.
T'as une émotion forte.
Ah, ça.
Ouais.
Léon, merci, à très bientôt.
Salut Léon.
Et on va parler de Nantes, hein. Donc là on te laisse parce que c'est pas trop beau.
Et en plus, il y a un entraîne ce week-end, dimanche après-midi, 15h.
Oui, c'est ça, c'est.
L'entraîne, le dernier.
Mais après, s'ils font comme contre le Shakhtar, là c'est. Ils vont enchaîner sur 8 défaites.
Bon, après, vous êtes fatigué du match de ce soir, mais Nantes a également joué ce soir, donc bon.
Oui, mais Nantes après. C'est pas
une grosse déception, tu veux dire?
Ouais, voilà, c'est voyait les supporters chanter quand même après, même s'ils se prennent 3-0 contre la Juve, parce que déjà l'exploit d'être allé chercher un partout à Turin, Nantes, ils ont rien à se reprocher. Clairement, à part le rouge de Palois qui est. On lui enlève le bras, il n'y a pas pénalty.
C'est quoi cette nouvelle génération de supporters? Non, toi, le Rennais, tu devrais dire non, on s'en fout, ils sont éliminés, t'en fous pour eux.
Non, mais c'est un club français.
Il fait une analyse, il n'est pas supporter, il fait une analyse.
C'est un club français. C'est comme Paris, j'ai pas aimé la façon dont ils ont été construits avec le 14 qui les a rachetés. Mais si c'est le seul club français encore en Coupe d'Europe, bah forcément qu'on va l'encourager.
Bon, t'as raison.
Mais très belle analyse sur l'histoire que tu racontes à tes supporters entre Nantes et Rennes. Très, très différente.
Merci Léon.
Rentre bien Léon.
Dans un instant, Nantes au programme. Ensuite, Monaco. Ensuite, les affaires à la Fédé. Ensuite, OMPSG. On est là jusqu'à 1h du matin.
Rien à dire.
Exceptionnellement.
Plus Monaco.
Plus Monaco. Je ne l'ai pas dit. Oui. Allez, jusqu'à 1h du matin, on est là exceptionnellement ce soir. Dans l'after. A tout de suite.
RMC jusqu'à 1h.
L'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est minuit et 21 minutes jusqu'à 1h du matin, exceptionnellement l'after du fait notamment de la séance de tir au but entre Rennes et le Shakhtar Donetsk. Rennes éliminé, Nantes éliminé, on va en parler dans quelques instants. Monaco éliminé, on va en parler dans quelques minutes. Nantes, les gars, allons-y. Alors bon, évidemment, il y avait l'excitation depuis une semaine, match à guichet fermé et tout. Puis en l'espace de 5 minutes... Terminado, rideau, Di Maria, qui met un beau but d'ailleurs, hein. Le premier là, magnifique.
Premier but, il est passé par un beau
magnifique.
Ah, sur la double confrontation, lui, ce qu'il fait à Nantes, ouais. Il a plié
bagage. Et on va être obligé de repenser à son départ du PSG, évidemment.
Mais c'est pas le départ le problème, surtout comment il a été remplacé.
Non.
Ouais.
Non, c'est pas ni comment il a été remplacé, ni son départ. C'est la façon dont on a considéré à un moment que ce gars-là devait être mis en concurrence parce qu'il était plus assez sexy, alors qu'on sait très bien que c'est un joueur qui a besoin d'être considéré comme un titulaire, reconnu à sa juste valeur parce que, dans mon souvenir, à moins que certains matchs m'échappent, mais je pense que dans les matchs à haut niveau en Ligue des Champions... Je lui mets un 80-20 de bon match, oui. Dans les gros matchs, 80-20.
Il y a des images marquantes.
Et considérer qu'il était fini au point d'en faire un remplaçant, de nous faire croire qu'il y avait un concept de 4 fantastiques, alors qu'au fond, dès qu'il y avait un gros match, finalement, il sortait après et il devenait un remplaçant. Donc finalement, c'est sa gestion globale dans le PSG où il fallait ajouter des vedettes aux vedettes qui a été une catastrophe.
Après, alors les gars, s'il vous plaît, on a Johan Crochet qui nous rejoint et Paulo Breitner, il va parler de Leverkusen dans quelques minutes, mais accueillons-les tous les deux. Johan, bonsoir.
Bonsoir messieurs.
Salut Johan.
Paulo, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde.
Bon, il est tard les gars, hein, mais bon, c'est le scénario du soir qui nous pousse à prolonger d'une demi-heure.
Félicitations Paulo pour l'Union, hein.
Bah, c'était écrit, hein.
Il l'avait dit, Paulo, il l'avait dit. Comme il avait dit ça, qu'ils allaient éclater l'Ajax. Ouais.
Non, mais les adolescents amsterdamois sont retournés chez eux, c'est ça qui est
important. Bah, les adolescents rennais aussi.
C'est
du
ta
coup.
Soirée. Hein.
Bon. Est-ce que en Italie, on a quand même dit que peut-être le rouge de Palois était un peu dur?
Bah, en fait, oui, on peut dire que c'est dur, mais en fait, il a appliqué le règlement, donc. Je sais pas trop quoi dire à ce sujet parce que moi je trouve que c'est débile parce que moi je pense que pour ces situations-là il faudrait introduire une notion de geste volontaire ou de main qui va vers le ballon et pas juste le ballon touche la main et c'est empêchement de
et comme d'habitude le fait qu'il va rajoute à la frustration parce que tu dis
on voit un geste de Palois,
il a même pas été voir
vers le ballon,
il a forcément eu un retour
en fait, non mais il y a pas justement Daniel dessus. Et cette notion là elle n'existe pas dans les lois du jeu, donc il a appliqué ce qui existe à l'heure actuelle, et ce qui existe à l'heure actuelle c'est une main empêche le ballon d'entrer égale carton rouge, ouais. Penalty.
Et puis dans les lois, surtout, c'est que s'il met pas le rouge, moi j'aurais jamais mis le rouge, hein, mais s'il met pas le rouge et que derrière la Juventus rate le penalty et que Nantes revient à cause de ça,
je croyais que la double peine ça n'existait plus.
Ah, je...
Ça existe encore, Gilbert, toi qui suis cette histoire.
Puis en fait, c'est pas appliqué, quoi. C'est. Bref.
Ok, bon, ouais. Écoute, de toute façon, moi sur ce match, à partir du moment où j'ai vu que ça a tourné de cette façon. J'ai pensé qu'il n'y avait absolument plus rien à dire à ce match, parce que 2-0, même pas 10 minutes, c'était bouclé. Il s'est rien passé, en fait. Le match n'a pas existé. On peut parler de Di Maria parce qu'il a mis un but fantastique et ça nous fait penser à Di Maria au PSG. Pour le reste, qu'est-ce que tu veux analyser? Nantes, ils pouvaient plus rien faire à ce moment-là. Ils étaient juste vaillants à essayer de courir. La Juve qui...
Bah, disons qu'à 11, tu peux te dire peut-être qu'il peut se passer un truc.
Ça a duré 5 minutes. Ouais. La Juve qui n'aime qu'une chose, c'est ne rien faire, ouais. Et attendre.
Ah, ils étaient contents.
Bon, bah là, ils étaient dans un fauteuil. Au revoir tout le monde. Moi, si vous avez des choses à dire sur ce match, dites-les, je vous écoute.
Non, mais on a eu 5 très bonnes minutes de Nantes et Di Maria qui a climé un peu la Beaujoire avec encore un but extraordinaire.
Ah oui, non, parce qu'il y a eu une ambiance de folie jusqu'au bout. Les supporters nantais ont été exemplaires.
En tout cas, doucher les espoirs de qualification. Ils ont continué, bien évidemment, à chanter. Et même à la fin du match, il y a eu de très, très belles scènes. Mais voilà, le joueur spécial actuellement à la Juve, c'est Angel Di Maria. On l'avait bien compris déjà à l'aller ou sur les 30 premières minutes. C'est lui qui faisait tout et qui avait permis à la Juve d'ouvrir le score. Là, ça a été exactement la même chose. Et derrière, sur le pénalty, parce qu'on parle du penalty, mais comment il va se le créer ce penalty, c'est encore une fois avec une grande qualité. Et après, je vais laisser Johan Crochet parler de la gestion de la Juventus en deuxième mi-temps, où comme d'habitude à 2-0, ils sont pas fait chier, ils ont attendu.
Ils ont géré, ouais.
Voilà, ils ont attendu. Et puis du côté de Nantes, hormis Ludovic Blas qui a encore montré sur cette double confrontation que pour moi il n'avait rien à faire à Nantes et qu'il devrait aller un peu plus haut. Mais voilà, faut féliciter ce qu'a fait Nantes et sur ce parcours extraordinaire.
Sur la Juve, tu veux rajouter quelque chose, Johan?
Non, mais on a vu ce que j'explique depuis plusieurs semaines, c'est que le football d'Allegri, c'est 3-4-3, passe le ballon à Di Maria, advienne que pourra.
Pas mal.
C'est exactement ça. C'est
une belle vulgarisation.
Toutes les actions, c'est pour les circuits offensifs. Bah, si Di Maria invente, bah tant mieux pour nous. Et si Di Maria est dans un mauvais jour, bah tant pis pour nous. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que c'est travaillé et c'est comme ça que c'est réalisé sur le terrain. Donc, comme on a un joueur exceptionnel, André Di Maria, bah, il est capable de faire plein de belles choses.
Et il a remplacé ce projet de jeu avec celui où il faisait la même chose avec Chiesa avant sa blessure, quoi, en fait.
Le quoi?
Il a fait exactement la même chose qu'il faisait avec Chiesa avant sa blessure.
Ah non, parce que j'ai cru en train de projet de jeu, c'est pour ça. Et j'avais pas trop compris avec Allegri, projet de jeu, ça marche pas trop. Je croyais que tu parlais de Nantes pour le coup. Non, mais c'est totalement ça. Mais on le sait, hein, Allegri a écrit des bouquins, enfin un bouquin en l'occurrence, où lui il explique que de toute façon le football c'est très simple. Tu passes le ballon au coéquipier qui est le plus proche de toi et puis après on voit quoi.
Du coup,
pour les attaquants, il les entraîne pas parce que
une préface.
et les attaquants, ils les entraînent pas parce que de toute façon la qualité individuelle fait la différence. Bon bah à partir de là, voilà, on a sa vision du foot qui se confirme de mois en mois et d'année en année.
Oui, enfin bon, malgré ça, c'est quand même les Juventus, t'as quand même une espèce d'aura, un truc qui fait que bon ben bah, voilà.
Mais là heureusement Gilbert que voilà, tu gagnes contre Nantes.
Des qualités.
Non, mais si la Juventus Turin
éliminée par Nantes. Voilà,
on a passé une semaine à dire l'exploit est possible.
Il n'était pas possible. Il fallait y croire, les Nantais ont tout fait pour y croire. Ils étaient à bloc dans la préparation du match, ils en parlaient, tout ce que tu veux. Maintenant qu'au final, ils se fassent éliminer, quand en plus, au bout de 10 minutes, t'as 2-0, t'as un carton rouge, c'est comme avait dit Comboiré, si la Juve sort contre nous, ils sont ridicules. Et évidemment que c'était ça.
Attendez, messieurs, je crois qu'on oublie un moment de parler du fait que la Juve, c'est comme le meilleur effectif d'Italie. Hein.
Bien sûr.
Parce qu'on a l'impression que c'est un exploit et qu'Allegri, il a réussi à battre Nantes. Attendez, on parle du meilleur effectif d'Italie.
Les mecs, ils ont récupéré Bremer, qui était meilleur défenseur l'année dernière. Ils avaient Paredes sur le banc. Ils ont Rabiot, qui était en finale de Coupe du Monde. Di Maria.
Ils n'ont que des internationaux partout.
Ils avaient Vlahovic sur le banc aujourd'hui.
Mais il ne sait pas quoi faire avec tous ces joueurs. Il a Chiesa qui n'était pas disponible ce soir.
Il a été acheté 80 bâtons, Vlahovic. Si la Juve de Vlahovic, Di Maria, Rabiot n'arrive pas sur une double confrontation à sortir le Nantes de Chirivella et de Florent Mollet.
Ils ont eu besoin d'un arbitrage que j'ai toujours pas compris.
Et de Florent Mollet, ça aurait été quand même très très compliqué. Donc la Juve, ils ont juste fait leur boulot sur cette double confrontation.
Avançons. Johan, raconte-nous ce qui s'est passé dans le match Fiorentina-Braga, un truc assez étonnant, arbitré par des Français.
Ouais, exactement. Alors déjà, c'était un match un peu dingue parce que la Fiorentina avait gagné 4-0 à l'aller et était menée 2-0 au bout de 20 minutes. Donc
et ça, c'est de la Conference League.
Ouais, Conference League, exactement. Ouais. Et l'arbitre central.
Respecte cette compétition parce qu'il nous reste un club.
Vas-y, écoutez, Johan, c'est intéressant, vous allez voir.
L'arbitre central était donc Benoît Bastien et en fait, sur un centre de Bonaventura, il y a Cabral qui se jette et qui, au départ, ne pense pas marquer. Le ballon est repoussé, pense-t-on, sur la ligne par le gardien. L'action se poursuit, ça donne un corner. Et finalement, Benoît Bastien montre sa montre, en l'occurrence, la montre VAR, et explique que donc ça a sonné, que le but est validé. Donc, tout le monde fête le but, etc. Et puis, on voit Benoît Bastien mettre la main à l'oreillette et le VAR lui demande d'attendre. Et ça dure très, très longtemps, jusqu'au moment où le VAR appelle Benoît Bastien pour aller contrôler les images sur le moniteur et sur les images. Alors, ce qui était génial sur ce match, c'est qu'en fait, on avait une caméra qui donnait donc totalement sur l'écran de la VAR que Benoît Bastien était en train de regarder. Donc, on voyait exactement ce que Benoît Bastien était en train de regarder. Et sur la partie gauche de la télé, on avait l'image vraiment telle que Benoît Bastien la voyait. Donc, on avait le double angle. Et en fait, Benoît Bastien a jugé sur l'image qui lui était présentée que le ballon n'était pas entré. Très sincèrement, au final, on s'en fiche parce que ça change pas le résultat et la qualif, etc.
Mais sincèrement,
je ne vois pas sur les images les images qui nous sont présentées, il n'y a à aucun moment, je ne vois pas comment on peut dire qu'à 100% c'est certain que le ballon n'est pas rentré. Et à partir de ce moment-là, s'il n'y a pas 100% de certitude, bah je me demande pourquoi la VAR passe par dessus la goal line technologie
a toujours été présentée comme un truc infaillible.
La GLT, c'est pas infaillible.
Bah là, l'image souvenez-vous, en fait, te donner un résultat différent, en fait.
Vous vous souvenez de Real Madrid Ajax en, ça devait être en huitième de finale de Ligue des Champions.
Oui,
avec la fameuse saison où l'Ajax
avec l'Arsenal.
Avec Mazraoui qui sauve un ballon sur le long de la ligne de touche.
C'est ça.
Et le but de Tadic juste derrière. Ouais. Et en fait, la VAR intervient, contrôle. Et en fait, bah, elle n'a pas un angle qui lui permet de dire que le ballon est 100% sûr sorti, donc il reste sur l'impression de terrain. Et donc là, aujourd'hui, on a eu un avis différent. Bon, au final, on s'en fiche parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne change pas le résultat. Mais en termes de principe, je trouve ça un peu bizarre.
Bon, l'arbitre, dans les arbitres vidéo, il y avait Bonamio, qui connaît ses histoires par cœur et qui donc a fait passer donc l'œil humain en fait avant la techno là sur cette histoire a priori.
Oui et en soi moi je suis pas contre ça hein, pas du tout hein. Mais en fait je me dis à ce moment-là pourquoi on met la technologie.
Et donc là il y avait rien qui permettait d'avoir une certitude ni l'image VAR ni la GLT, c'est quand même formidable.
Mais en fait l'image de la GLT montre que le ballon est entré.
La GLT te dit
la modélisation 3D montre que le ballon est entré.
Donc
la VAR dit que la GLT a fait une erreur.
Voilà. C'est ça qui est fou. Bon, on aura le temps de revenir là-dessus plus longuement. Je voulais qu'on vous le raconte.
Ça me rappelle un film.
Merci Johan, merci beaucoup. Merci
Johan. Juste une petite précision, les amis, 4-4 ce soir. Encore.
Ah oui, les Italiens, ils font sans faute.
Entre Ligue des Champions, Europa League, ça passe. Hein.
Vous pouvez faire 3-3 déjà en Ligue des Champions, vous êtes en ballotage favorable. Hein.
Exactement. Ouais,
exactement. Et puis, juste un petit mot quand même, parce qu'on a parlé de Di Maria, pied gauche soyeux, Dybala côté Roma ce soir. Pouh.
Ouais. Dybala, c'est un gros match.
La soirée à regarder Di Maria et Dybala, on fait
avec le service de Spinazzola.
Spinazzola, il revient en forme. Hein.
Ça fait deux matchs qu'il est vraiment très bon. Alors qu'il a mis du temps à revenir, mais c'est logique, c'est une blessure très compliquée.
2-0.
Mais là, il revient vraiment, vraiment.
Il faut qu'il revienne en forme parce que Daniel, il nous a mis chapeau il y a un an. Et
qui?
Spinazzola.
Bah, évidemment qu'il est chapeau.
Ah, mais faut qu'il revienne. Hein.
Bah, les gars, t'as vu la blessure qu'il a eu?
Non, c'est pour ça qu'il prend des nouvelles, Johan.
T'as vu la blessure qu'il a eu? Avec une blessure pareille, c'est compliqué.
Chiesa, il était chapeau aussi, non?
Mais tu sais, ce genre de très graves blessures qu'ils ont eues, des fois, tu reviens jamais complètement.
Merci Johan, bonne soirée.
Salut Johan.
Bonne soirée, ciao.
Monaco, maintenant. Bon, Polo, tu nous dépeignais un Leverkusen, qui c'est vrai, en plus, même en championnat, là, ils avaient perdu.
Oui, mais contre un club de Ligue 1, c'est suffisant. C'est en fait Polo.
Ah non, c'est pas ça, c'est contre Nubel, c'est suffisant, en fait.
D'accord.
Polo Nubel,
il est horrible. Au moment, ça devient fatigant.
C'est un peu fatigant, il est nul.
Polo Nubel, ce soir, c'est une catastrophe, Polo.
Ça devient fatigant, les gars, sérieux.
Ah bon, tu l'as trouvé bon, toi?
Ouais, mais ça, ouais, vous êtes fatigant, honnêtement, quoi.
Ah ouais?
Vous êtes très fatigant.
Pourquoi? Parce qu'on dit que Nubel est nul.
Non, mais à part dire ça, vous ne dites rien d'autre, quoi.
Bah non,
c'est fatigant. Tu disais un truc.
Continuez à individualiser le football, c'est très bien, quoi.
Mais non, l'individualisation.
Moi, je sais pas, j'ai vu un Florian de Wirtz extraordinaire ce soir, mais ça ne doit pas vous intéresser. Ça ne doit pas vous intéresser.
C'est pas une individualité, Florian Wirtz.
Non, moi, j'aimerais bien, effectivement, que tu nous parles un petit peu de ce gamin qui est vraiment très, très bon.
Oh,
vraiment,
quel match.
Laissons tomber Nubel, effectivement. Alors, dans ces cas-là, tu aurais dû dire positivement sur les talents qu'on a vus ce soir. Effectivement, il y a des joueurs qui, peut-être collectivement, tu avais raison de nous dire que c'est peut-être pas leur meilleure saison et qu'ils se cherchent encore. Moi, il y a des séquences, même pas des séquences, hein, des longs moments dans ce match où ils ont promené Monaco.
Ouais.
Pas sur la fin, où Monaco est clairement revenu et repassé au-dessus, mais dans le jeu, dans les transmissions. Alors peut-être que la patte Xabi Alonso est en train de se mettre en place, mais ça puait la classe, ça puait le football.
Il y a à droite du 4-1 à un moment donné.
Il y a le petit Wirtz qui est très très bon. Au milieu de terrain, il y a Palacios.
Palacios,
mais il est pas bon. Ah, il est pas bon. Ce soir, il est très bon.
Oui, ce soir.
Moi, c'est surtout
mauvais.
Le duo Wirtz Adli,
Bakker est pas bon non plus, ils veulent se séparer.
Ouais, bah dis donc,
en fait, il nous disait qu'il a fait un match extraordinaire.
Bah, il a été très bon ce soir, le boulanger. Le boulanger a été très bon et Palacios aussi. Hein.
là, en fait, la grande leçon, et c'est vrai que c'est la grande surprise, notamment quand il y a eu le 3-2, moi je me suis dit, allez, les Verkusen vont encore passer la trappe parce qu'ils sont dans une période qui est pas bonne pour eux. La défaite le week-end, la semaine dernière, évidemment, contre Monaco, Monaco avait fait un bon match et tout ça, ils se prennent quand même des buts assez extraordinaires. Ce week-end, ils perdent 3-2 contre Mayence, ils auraient pu remporter cette rencontre, mais ça voulait pas. Et là, tu te dis, ils mènent 3-1, ils sont pas loin du 4-1, et ils se prennent 3-2 à la 85e, tu te dis, bah, c'est fini, quoi. Comme d'habitude, et ils vont trouver le moyen. Et en fait, c'est là-dessus qu'on insiste en Allemagne, comme si, et si tu vois, s'il y avait une faute professionnelle du côté de Monaco, c'est quand tu es dans le rush qu'à Monaco en ce moment, cette rencontre, tu dois la gagner parce que tu vois toute la fébrilité en ce moment de Leverkusen. Un joueur que j'adorais, enfin, il a que 24 ans, Tapsoba est pas bien du tout en ce moment. Dès que Monaco attaque un petit peu, c'est compliqué. Et pourtant, tu vois le talent potentiellement de cette équipe. C'est-à-dire que il manque quand même Patrick Schick, hein, qui est sur le banc et qui
est rentré. Heureusement,
Diaby était pas là, Adli, il est d'une inconstance énorme et ce soir, il fait quand même pas un match complet. Lozek, il a que 20 ans et il fait quand même des choses intéressantes. T'as un gamin qui a été absent pendant des mois, Florian Wirtz, et qui là en train de revenir, je sais même pas combien il a pu tenir plus de 100 minutes sur le terrain quand on voit la vie de
il est
bourré de talent. Mais si tu veux, c'est ça. Moi je me suis régalé sur les matchs aller et matchs retour. Il fallait qu'il y ait une équipe qui passe, c'est Leverkusen qui est passé. D'ailleurs, ça serait peut-être un match charnière pour la suite de la compétition. D'ailleurs, moi, je sais pas ce que ça va donner parce qu'ils sont en difficulté en championnat. Et puis, t'as un gamin. Alors, je sais qu'on tout le monde parle de Moussiala. Florian Wirtz, on nous l'annonce depuis des années. On l'avait déjà vu. Il a que 4 sélections avec l'Allemagne à cause de sa grave blessure.
Ce niveau-là après s'être fait les croisés quand même, Polo.
Fait le genou, lui.
C'est fort quand même. Hein.
Bah, ça va être très fort, mais c'est pour ça le problème de l'Allemagne là, dans les prochaines années, c'est pas le milieu de terrain offensif, hein, avec entre Moussiala et Wirtz, c'est tranquille, c'est plus sur d'autres postes. Mais c'est vrai que cette rencontre, moi, j'en voudrais en bouffer tous les jeudis. Quoi.
Oh, c'était une très belle double confrontation. Oui.
Ouais,
je trouve que globalement dans le jeu, que ça soit même à l'aller au retour, je trouve que Leverkusen a été meilleur et mérite sa qualité.
On voit qu'il y a du travail. Ouais. Et on sent la patte d'un entraîneur qui aime ce jeu-là, ouais, et qui fait bien jouer son équipe. Hein, clairement, hein. Tu sens plus une patte d'entraîneur que chez Clément. Même si Monaco, par moment, a été supérieur sur la fin du match, quasiment. Pas dernière demi-heure, mais au moins un quart d'heure, 20 minutes.
Oui, la prolonge aussi un peu.
Voilà, ils sont vraiment au-dessus.
Non, mais défensivement, gros problème.
Même qu'à un moment, ils vont gagner le match, ils vont retourner le match en leur faveur. Mais
aucune rigueur défensive, hein, Monaco ce soir.
Exactement, mais des deux équipes, là où c'est le plus cohérent en termes de jeu, c'est Leverkusen. Hein.
Je sais pas, moi je trouve que Monaco était pas mal, quoi.
Mais je te dis, je t'ai pas dit que c'était pas.
Il y a pas un grand écart.
C'était 50-50. Mais encore une fois, moi, s'il y a une. Quand t'écoutes Clément en conf, alors évidemment, de l'autre côté, Xabi Alonso, il t'explique qu'il a toujours eu confiance, etc. Sauf que des matchs comme ça, il arrête pas d'en perdre, quoi. Donc le problème, si tu veux, c'est la confiance, elle est côté monégasque que sur cette rencontre, sur ces choses.
Mais ils les ont pas bousculés. Je pense que c'est une équipe qui doit être emmerdée parce qu'en Bundesliga, les équipes se rendent bien dedans. Les équipes qui essayent de bien jouer, on les fait déjouer en leur rentrant dedans. J'ai vu Monaco faire ça à plein de moments dans la rencontre, et c'est vrai qu'à ce moment-là, Leverkusen semblait vraiment en dessous. Mais le problème, c'est que Monaco l'a pas fait de façon constante. Et d'abord, à un moment, ils se sont laissés faire et se sont fait promener. Après, une fois qu'ils ont été menés au proche de la catastrophe, ils ont remis un peu de turbo, ils ont remis de l'intensité, ils sont allés les chercher, ils les ont bousculés. Et c'est en plus en mettant un mec comme Mbolo, en mettant un petit peu de puissance.
Mbolo qui a changé beaucoup de choses. Hein.
Mbolo a changé effectivement
un peu
beaucoup
trop tard
de choses.
À mon goût.
Mais en fait, ils n'ont pas été sur courant constant pour les emmerder. Et donc, Leverkusen, finalement, laisser jouer les Wirtz, tous les mecs que tu dis qui sont peut-être pas tout le temps bons, toi, tu les vois beaucoup plus que nous. Et ben, ce soir, ils les ont laissé faire un très bon match.
Ils étaient dans la réaction pendant toute la rencontre.
Ils les ont laissé jouer. Tu vois, Palacios, si tu me dis il est pas bon, régulièrement en Allemagne, je veux bien l'entendre. Mais ce soir, ce qu'il fait, alors c'est peut-être parce qu'on le laisse faire.
C'est un peu le problème que je vois, moi, ce soir, c'est que le milieu de terrain de Monaco n'a pas forcément gagné les duels au milieu de terrain.
C'est ça.
Avec Andrich et Palacios. Et pourtant, il y a Camara, que moi je suis un grand fan de lui.
Camara fait un très mauvais match.
Oui, mais sur l'ensemble d'une saison, moi c'est un joueur que je suivais beaucoup lorsque j'étais à Salzbourg. Ils ont laissé trop jouer le milieu de terrain de Monaco. Et quand en plus t'as des flèches, et là c'est le petit néerlandais Frimpong, c'est. c'est des schémas qui sont faits pour lui. Si tu commences à le laisser jouer, ça devient délicat. Mais je me demande si Clément en fait est pas fautif sur le fait de pas avoir densifié son milieu de terrain au début, parce qu'il rappelle quand même qu'il a un but d'avance. Hein, ça a l'air de rien, et que tu peux jouer juste sur des contres. Et la deuxième chose, et là je vous avais raison, c'est que dès qu'Embolo rentre, qui a une puissance physique extraordinaire, ou même quand j'ai oublié son nom déjà, l'international français. Défense centrale, Disasi.
Disasi.
Et puissant, et monte, et fait des avances, et que ça, dès tout de suite, Leverkusen est en difficulté. Donc moi, je trouve que c'est une grosse performance qu'a fait Leverkusen de l'emporter dans cette rencontre. Parce qu'encore une fois, moi je suis intimement persuadé que ces deux équipes-là se valent.
Oui, ça on est d'accord.
Mais c'est la forme du moment qui prime. Et tout, en fait, à la fin, à partir du moment où tu reviens à 3-2, et ben normalement, Leverkusen s'écroule. Et ils les ont laissés, entre guillemets.
Ils n'ont pas appuyé.
Ils n'ont pas appuyé. C'est là qu'il fallait les tuer.
OK. Polo, merci beaucoup. Je rappelle que ce match a été commenté brillamment par Stéphane Guy et Kevin Diaz.
L'afterfoot en force.
Phrase du soir de Kevin Diaz. Il parlait de Bakker. Mmh. Il dit voilà, ça, c'est ce que doit faire un ailier. C'est ce que doit faire un bon ailier. Et je sais de quoi je parle. Quel génie, Kevin.
Bakker, il a pas joué Lille en plus.
Non, si, il était débordé, pas mal.
Il était bon, il était bon boulanger. Comportement aussi.
Merci Polo, bonne soirée.
Merci Polo.
Ah, juste avant de passer au reste de l'actu, les gars.
On va parler un peu de Monaco, parce qu'on n'a pas.
Ah bah vas-y,
Monaco. Parce que Monaco, c'est quand même problématique. On a l'une de nos locomotives en Ligue 1 qui, encore une fois, perd en Europa League. Et en plus, Monaco, c'est génial parce que toutes les saisons, en fait, on peut les prédire à l'avance. C'est-à-dire qu'en fait, ils commencent par un barrage, ils le perdent. Avec un début de championnat très très compliqué à cause de ce barrage là.
À partir de la 10e journée, ça se met en route. Voilà, et après, ils enchaînent les victoires.
Voilà, donc en fait, à partir de cette 10e, 15e journée, ils commencent un petit peu à enclencher, mais ils sont un peu loin en classement. Ils se font éliminer en Coupe de France.
Et puis après, ils sont éliminés en Europa League et ça les arrange. Voilà, exactement. Ils sont contents.
L'année dernière, c'était contre Braga, notamment en 8e.
Et ils mettent tout sur le championnat.
Et après, ils mettent tout sur le championnat.
Pour prendre l'oseille de la Ligue des Champions. Où ils ne vont pas.
Et ils reviennent 3e ou 2e en Ligue des Champions. Non, mais c'est extraordinaire parce que ce soir, encore une fois, le match.
C'est comme le cycle du PSG.
Non, mais c'est fou. Et parce que là. Là, on va critiquer Monaco, mais ils vont terminer 2e du championnat ou ils vont peut-être même, si le Paris Saint-Germain, ça se passe mal, ils peuvent même les challenger. Parce que l'année dernière, ils avaient fait 9 victoires sur les 10 derniers matchs de Ligue 1. Et c'est ça qui est problématique avec ce club. Et juste pour terminer, ce soir, tant les cadres que collectivement avec la patte de Clément, c'est pas normal quand tu es Monaco de te faire éliminer de cette manière. On est tout le temps déçu et frustré. Mais comme tout le monde
s'en
fout.
Et le match de Golovin?
Très décevant. Alors que Golovin en Ligue 1 est extraordinaire.
Voilà.
Concluons avec Anthony, parce qu'Anthony est supporter de Nantes. Il était au stade ce soir. Anthony, bonsoir.
Ouais, bonsoir, l'after.
Merci d'avoir patienté, Anthony. J'ai dit tout à l'heure, grosse ambiance jusqu'au bout, malgré tout. Donc, les supporters sont quand même heureux de la campagne européenne, quoi.
Ouais, bien sûr, carrément. Enfin, je pense que ce soir, la victoire, elle se joue surtout en tribune, du côté de Nantes. Je pense qu'on n'a pas à rougir. Bon, voilà, on avait un petit infime espoir que Nantes, ce soir, crée l'exploit. Bon, voilà, ça n'a pas été le cas. C'est sûr, on est tombé sur plus fort que nous. Voilà, après, dans tous les cas, ce qui m'a fait plaisir, c'est l'état d'esprit de Nantes. On a joué quand même cette Coupe d'Europe. Et franchement, non, voilà, bravo à l'équipe, bravo à tous les supporters parce que vraiment, c'était le feu. Je pense qu'on a peut-être été même une des meilleures ambiances ce soir d'Europe, je pense.
Non, c'était effectivement. Alors, le truc des fumigènes, là, c'est que dans le contexte du moment, avec en plus l'histoire de la Coupe de France. Pas s'il pas encore y avoir en plus une suspension, j'espère pas pour Nantes, hein, de tribune là, t'as vu?
Ouais. Après les fumigènes ce soir, bon je pense que c'est discutable, hein, je pense qu'il y a une grosse discussion à avoir en France mais aussi en Europe justement sur l'usage des fumigènes, mais en tout cas je pense que la brigade Loire ce soir elle a mis le feu, franchement j'aimerais vraiment leur rendre hommage parce que ces gars-là ont fait la finale le déplacement à Turin, ils ont pas pu le match. Voilà. Et ce soir, voilà, ils ont tout donné. Et franchement, bravo à eux. Bravo à eux, vraiment.
Merci Anthony. Bonne soirée. Effectivement, bravo aux supporters nantais. Un petit bout de Genesio, il est en direct là. Conférence
c'est
de presse.
C'est très, très dur. Mais j'ai dit à mes jeunes joueurs que j'ai été quand même fier d'eux et que si on pouvait continuer faire le même genre de prestation avec la même qualité en rajoutant un peu plus d'efficacité. On pouvait aussi espérer de bonnes choses sur cette fin de saison maintenant qui sera sans la Coupe d'Europe, malheureusement.
On n'est pas revenu là-dessus, Gilbert, mais ce soir, c'est chiant. C'est chiant pour le football français.
Ah bah, tu m'étonnes.
Je pense que ce qui nous a manqué, notamment en première mi-temps, c'est de l'efficacité offensive. Le premier quart d'heure, on a fait ce qu'il fallait, on a entamé parfaitement, on a récupéré des ballons hauts, on s'est créé des situations, il nous a manqué un peu de justesse technique ou d'agressivité dans certaines situations pour concrétiser notre domination et certainement ouvrir le score. Malgré tout, on ne s'est pas affolé, on a construit notre match. J'avais dit qu'il fallait être intelligent, c'est ce qu'on a su faire. On a su marquer ce but qui nous a permis de les emmener en prolongation. On a su marquer le deuxième but qui nous a qualifiés pendant quelques temps. Et malheureusement, comme je vous dis, le foot parfois est cruel. C'est comme ça, le ballon ne tourne pas dans le bon sens, pas comme on souhaite qu'il tourne. Et après, bon, les tirs au but, c'est une loterie, donc je ne veux même pas en parler. Mais voilà. Mais c'est dur à avaler, dur à accepter.
Voilà pour Genesio. Oui, tu disais.
L'analyse, elle est vraiment mauvaise.
Il n'est pas inspiré du tout,
Bruno.
Il est sonné.
Le péno, la loterie, il n'y a rien qui va en ce moment. Je pense qu'il n'a pas toute sa tête.
Ce que je disais, Daniel, c'est que c'est vraiment chiant pour la Ligue 1 ce soir. Et même globalement, la saison européenne qui est en train de se profiler. Quand nous, on est les premiers, parce que c'est la réalité, ce qu'on voit. Moi, je regarde beaucoup de matchs, même en Europe. Cette année, la Ligue 1, c'est bien. C'est vraiment bien. On parle des coachs, on parle des ambitions, etc. Quand tu vois que l'Olympique de Marseille a terminé quatrième en début de saison, dans une poule où il y avait l'un des pires Tottenham, Francfort qui vient de se faire fesser par le Napoli, que le PSG va peut-être sortir et en ballotage défavorable contre le Bayern, que Rennes, qui était l'année dernière quatrième et l'une des plus belles équipes de Ligue 1, se fait sortir par Shakhtar, on va pas revenir sur les conditions du Shakhtar, et que Monaco se fait sortir par le Bayer Leverkusen, qui est 9 ou 10e de Bundesliga, sincèrement, ça met un coup. Ça met un coup et il faut pas prendre ça à la légère parce que c'est bien ce qui se passe dans notre championnat. On le dit, mais il faut aussi à un moment donné que ça se concrétise en Europe, tant chez les coachs que chez les joueurs.
Je vais aller plus loin.
Quand Johan Crochet nous dit ça va peut-être faire 7 sur 7 en Serie A, moi je trouve ça chiant. Parce que nous, on a envie de valoriser la Ligue 1 toute l'année, mais ce soir, ils nous font du mal. Ils font du mal aux observateurs, les joueurs de Ligue 1 ce soir.
Je vais aller un tout petit peu plus loin pour accentuer ce que tu dis. Il va y avoir l'appel d'offres des droits de la Ligue 1 à la fin de cette année, à l'automne. Vincent Labrune a tout misé sur cette année en vendant les 13% à CVC et tout misé sur un bon parcours. C'est pour ça que les clubs ont reçu de l'argent. Les clubs qu'il appelle de standing européen, PSG et puis derrière Marseille, Lyon, Nice, Monaco ont reçu plus d'argent que les autres pour avoir des résultats, pour aller loin en Coupe d'Europe, pour pouvoir séduire les diffuseurs et dire on est en train de devenir une place forte. Parce que l'objectif, il a été vendu comme ça dans toutes les réunions. Vincent Labrune a dit nous allons passer devant l'Italie. Là, il va falloir juste faire gaffe à ce que les Pays-Bas ou le Portugal ne repassent pas devant. Donc c'est un cuisant échec, un mauvais pari de Vincent Labrune, un de plus. Et moi, je suis très sceptique quant à une augmentation. Déjà, on nous a fait le coup à l'époque de Mediapro. Si on dépasse les 600 millions à la fin de l'année, vu nos résultats en Coupe d'Europe, je ne sais pas quel diffuseur va être séduit. Et je ne sais pas comment on va séduire quelqu'un qui pourra mettre de l'argent.
Mais c'est dommage parce que sur les dernières années, les jeudis noirs, c'était plutôt logique par rapport à ce qu'on voyait le week-end. Et là, c'est ça qui est emmerdant, Daniel.
Allez, il nous reste 10 minutes d'after. On est en direct jusqu'à 1h du matin, exceptionnellement. Juste, je voulais vous donner les adversaires potentiels de Nice. Tirage au sort demain, c'est notre dernier club.
Avec le PSG.
Donc, Nice peut affronter la Gantoise, Bâle, la Lazio, Lech Poznan, la Fiorentina, l'Arnaca, Anderlecht et le Sheriff Tiraspol.
Okay, ouais, c'est du 50-50 que ça passe pas.
C'est pas gagné.
Les adversaires potentiels.
C'est vraiment, vraiment pas gagné.
Ça, c'est du à peine 50-50.
On rappelle que Nice, en début de saison, se qualifie à la 118e minute sur un but de Beka Beka contre une équipe, je ne me souviens même plus du nom de l'équipe.
Pas le Partizan.
Non, c'est pas le Partizan.
Non, c'est pas les Chypriotes.
C'était une équipe israélienne, je crois. Il me semble, le Maccabi. Je sais plus, c'était quoi. C'était le Maccabi.
De toute façon, c'était pas brillant. Donc il faut très faible. Et non, toutes les équipes que tu as citées, ça peut gagner contre Nice.
Ah oui.
Là maintenant, il faut arrêter de croire à quoi que ce soit. Mais moi,
t'es Slovaco.
Ah oui,
ouais. c'était le match d'avant alors.
Cette année,
Cologne, Partizan et Slovako.
Cette année.
Non, mais non, je parle du barrage.
Ah, tu parles du barrage.
Du barrage, moi, je te parle du barrage.
T'es sombré dans un positivisme certainement exagéré. Mais je repense à tous nos calculs. Tu te souviens quand François Bessène était venu dans l'émission avec ses calculs? Quand il parlait des clubs ukrainiens, Shakhtar, machin. Bon, quand je disais toujours Shakhtar contre 90% des équipes françaises, ça gagne. Bah, ça a encore gagné ce soir.
Ils ont gagné contre Monaco l'année d'avant.
Voilà. Et là, effectivement, on peut perdre tout le monde parce que le PSG, temporellement, ils sont encore là, mais c'est au même stade, c'est en huitième de finale. Il y a quand même de fortes chances que ça tombe. Un mauvais tirage pour Nice et c'est au revoir tout le monde. Hein. Voilà.
Allez, dans un instant, le reste de l'actu du jour. L'after continue pendant encore 10 minutes tous ensemble.
RMC jusqu'à 1h.
L'after foot.
Gilbert Bribois.
Minuit 52, Walid Acherchour est là, Daniel Riolo est là, after exceptionnellement jusqu'à 1h du mat après la soirée cataclysmique des clubs français en Coupe d'Europe. Passons au reste de l'actu, il s'est passé pas mal de choses aujourd'hui. Jean-Michel Aulas et Sonny Anderson ont donné une conférence de presse. Sonny Anderson est désormais conseiller de l'OL.
C'est le nouveau Juninho, quoi.
Ah non, il n'est pas directeur sportif. Juninho, il avait quand même des prérogatives importantes.
Lui, il est juste conseiller.
Voilà.
Donc, lui, c'est genre, je viens dans le bureau, je te parle.
Comme Gérard Rouli à l'époque, en fait. C'est ce qu'a expliqué Aulas.
Non.
Excuse-moi.
Gérard Rouli était conseiller extérieur.
Et là, c'est pareil.
Il n'est pas conseiller intérieur, lui.
J'y comprends plus rien, moi.
Je prends les propos d'Aulas.
Parce que Rouli ne lui parlait qu'au restaurant.
Écoute bien. C'est un conseiller.
Dans la voiture, sur le parking, mais pas dans le club.
Écoute bien.
Là, c'est à l'intérieur.
C'est un conseiller en prestataire. Je cite Aulas. C'est un conseiller en prestataire, comme l'était Gérard Rouli, qui avait à l'époque gardé un certain nombre de fonctions avec Red Bull. Parce que là, en fait. Sonny Anderson va continuer de bosser pour Beansport.
Ah, d'accord. Donc c'est un conseiller extérieur.
Un conseiller.
Mais juste une question comme ça, Sonny Anderson, avec tout le respect que j'ai pour sa carrière, etc. Mais dans le football après carrière, c'est dans les clubs, etc.
Il est consultant.
Voilà. Oui, mais sinon
oui,
il a
jamais cherché non plus à y bosser dans les clubs en fait.
Ok. Et maintenant
il a été sollicité.
Ouais. Donc on va prendre quelqu'un qui est dans le métier.
C'est la politique du comeback.
Une figure lyonnaise, une légende de Lyon.
On prend des anciens. Et puis voilà. Et puis on croit que c'est bien.
Pourquoi on va pas chercher de la compétence au lieu de la figure?
Parce que c'est un ancien joueur du club et que comme ça s'est mal passé avec Juninho, il va remplacer Juninho par un autre ancien qui était bien. Des supporters. Ouais.
Comme ça, les supporters, ils vont avoir du mal à le critiquer lui aussi.
Ah, tu comprends?
Actu PSG, Galtier à la grippe, ça vous en foutez peut-être, mais
non.
Il parle à l'entraînement.
Pour la préparation, à l'entraînement.
J'ai vu une composition d'équipe. Là.
Pose, il est là, il peut
ouais. Bien oui, c'est vrai.
Pose qui mène l'entraînement.
Mais j'ai vu une composition d'équipe, probable.
Oui, tout à fait, elle est là.
Ouais, est-ce que tu peux nous la donner, s'il te plaît?
Donnarumma, Bernat, Kimpembe, Marquinhos, Ramos, Mukiele.
Ah, moi j'ai vu
c'est
autre chose.
Défenseur.
J'ai vu Zaire Emery piston, moi.
Vitinha, Verratti, Ruiz, Messi, Mbappé.
Moi j'ai vu des compos probables avec Zaire Emery piston droit.
C'est vrai, le PSG qui maintenant joue à 5 derrière. Ouais. Et tout, c'est
bien parce que
c'est ambitieux.
Quand il avait Hakimi, Nuno Mendes, il voulait plus.
Alors,
mais
une petite nouveauté, les gars, c'est la bataille de chiffres entre l'OM et Paris qui se tire la bourre sur des communiqués. Donc Paris fait savoir que pour son fameux entraînement ouvert au public, on a dépassé les 30 000. L'OM fait savoir qu'on va battre le record d'un match à Marseille dimanche.
Ouais.
Et aussi pour un quart de finale de Coupe de France semaine prochaine. Donc chacun donne ses petits chiffres.
C'est bien. Qui se tire la bourre, hein, du moins qui nous offre un bon match dimanche.
Cela dit, les gens se passionnent.
On est pressé d'y être quand même.
Et puis, il nous reste un peu de temps pour parler quand même de ce qui se passe à la Fédé demain. Demain, Comex exceptionnel, qui n'était pas prévu, mais qui a été initié par Philippe Diallo, le président par intérim, à 11h30 en visio, pour statuer sur le cas de Florence Ardoin.
Ils veulent pas bouger, ils veulent rester à la maison.
Bah, apparemment, il y en a qui peuvent pas venir.
Télétravail.
Donc, Florence Ardoin a mis à pied à titre conservatoire. Elle s'est pas présentée à son entretien préalable. Elle a fait appel, rappelez-vous, au défenseur des droits, vous le racontez dans l'after cette semaine. Donc, Philippe Diallo veut faire un point pour établir la stratégie par rapport à Diallo avec les membres, avec les membres de son Comex. D'accord. Demain. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on motive le licenciement en gros.
D'accord, très bien.
Voilà, et ce soir.
Ouais, c'est ça la vraie news.
Voilà, ce soir, le coup de tonnerre, le premier membre du COMEX a démissionné, Jamel Sandjak, président de la Ligue Paris-Île-de-France. Il démissionne, il dit je constate l'impuissance du comité exécutif après la remise du rapport d'audit accablant sur l'OL Le Grette. Voilà.
Alors donc si on décrypte, bon, c'est la suite de la stratégie Sandjak qui donc, rappelons-le, était un opposant farouche à Noël Le Graët, mais qui, comme il veut devenir président de la Fédé, s'est dit que c'est en noyautant de l'intérieur qu'il pourrait le devenir au vu des statuts et de comment fonctionne le football français. Donc il a abandonné en apparence ses convictions pour entrer au COMEX et dire qu'il se mettait sur la liste de Le Graët. Le Graët l'a pris, ça lui faisait un opposant de moins. Il l'a pris dans son COMEX, calcul politique de Le Graët, calcul politique de Sandjak. Avec le bordel à la Fédé dont on parle depuis des semaines et le fameux audit, ils ont tous attendu de savoir ce qu'il réellement y avait dans l'audit. Stratégie politique qui continue de la part de Jamel Sandjak. Je démissionne, je suis le premier à le faire dans le COMEX, comme ça je donne l'impression que je suis un héros, un résistant, que je ne cautionne pas ce qui s'est passé, alors que pendant des années, j'ai rien dit du tout. Et comme tous les autres, je me suis tu et j'étais derrière Noël Le Graët. Donc là, je sors comme un héros.
Mieux vaut tard que jamais, non, Daniel?
Alors attends, je prépare ma liste et je prépare ma candidature, puisque l'objectif pour lui, il jouera cette carte puisque c'est son objectif majeur. Je prépare ma liste pour être candidat et éventuellement devenir président de la Fédé, puisque c'est ce qu'il veut faire.
Ajoute
voilà, c'est la stratégie politique de Jamel Sandjak. Moi, je suis sur la ligne et je n'en demanderai pas qu'aucun membre de ce COMEX ne doit continuer à travailler pour le football français. Ils ont tous été des soutiens de Noël Le Graët. On voit ce que ça a donné. Donc, je me fiche bien des calculs politiques des uns des autres. J'étais son opposant, mais je suis rentré à la Fédé pour noyauter le système, pour ceci, pour cela. Mais j'étais un vrai résistant parce que là, j'ai dit ça, j'ai machin. Ok, vous étiez tous au COMEX, donc tous autant que vous êtes. Aulas, Keller, Laura Georges, Schroub, Sandjak, Diallo.
Parent, Guémerich, La Brune.
Oui, mais Labrune, il est à LFP, c'est encore autre chose.
Il est membre de droit donc, du COMEX.
Vous avez couvert le vieux, vous dégagez, et on construit le football avec des têtes nouvelles et une nouvelle équipe. Je ne veux pas que le prochain président de la 3F soit issu de ce COMEX-là, se soit tu pendant des années et ait suivi Le Graët sur toutes ces conneries pour dire à l'arrivée « Oh mais non, mais moi, j'étais pas vraiment d'accord avec le vieux et tout. Allez, ma liste et tout, maintenant on va être nickel, on va diriger la Fédé. » Allez, dégagez-moi tout ça, au revoir tout le monde. Allez hop là, du balai.
Allez, on termine par Survivor.
L'Afterfoot sur RMC avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Troisième tour du quatrième Survivor de la saison, encore 17 joueurs parmi les membres de l'After. Quasiment tout le monde joue Lille qui reçoit Brest ce week-end, sauf Villas et Courbis qui jouent Lyon qui va à Angers, Gautreau qui joue Lorient qui reçoit Auxerre et Kevin Diaz, énervé après Monaco, qui joue Nice qui va à Monaco.
Ah ouais, d'accord.
Voilà, bah, il sort du stade, là, il est énervé. Il reste encore 2158 par ailleurs sur winamax.fr avec nous dans Survivor. N'oubliez pas la revue de l'After disponible en kiosque et librairie dès demain matin, les podcasts également toujours disponible. Abonnez-vous au podcast, c'est important afin que vous ne ratiez rien. Merci Walid, merci Daniel pour cette affaire exceptionnelle jusqu'à 1h du matin ce soir et à demain avec la Ligue 1.
RMC, l'After Foot.